L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez, le nom de cette émission est Venez à Jésus, c'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore une fois aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème « Le disciple et la souffrance », toujours avec notre invitée Marie Perpétue Mukulu. Bonjour sœur.
Bonjour Raphaël.
Merci d'avoir répondu présente à cette invitation.
Je t'en prie.
Que le Seigneur te bénisse et te rende au centuple cette disponibilité. Nous sommes toujours en train de partager sur ce thème qui est tiré du livre La formation des disciples que tu as écrit en collaboration avec le pasteur, le révérend Sita Luemba, que le Seigneur le bénisse là où il est. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les Seigneurs. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi pour entendre ta servante, pour entendre le message que tu as donné à ta servante pour chacun d'entre nous. Bénis-la, bénis le message, bénis ces hommes et ces femmes qui nous écoutent de par le monde, au travers des radios FM, des radios sur Internet, sur les supports informatiques, bénis-les. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Le disciple et la souffrance. Perpétue, que peux-tu nous dire aujourd'hui par rapport à ce thème?
Aujourd'hui, je souhaiterais qu'on parle de la victoire du disciple vis-à-vis de la souffrance. Alors, je pense qu'on peut viser comme but comprendre et s'engager à adopter l'attitude chrétienne envers la souffrance. Nous savons que, la fois passée, nous avons dit que la souffrance n'est pas seulement l'affaire de païens, c'est l'affaire de tout le monde, l'affaire des chrétiens, même des chrétiens affermis, les chrétiens se sont engagés à ressembler petit à petit à Jésus-Christ, les disciples du Christ. La souffrance n'épargne personne du tout. Mais notre souci, c'est de dire aux chrétiens, aux disciples du Christ, que quand bien même que la souffrance est là, que nous l'expérimentons presque chaque jour de notre vie, nous ne devons pas perdre courage, parce que la Bible nous a dit, Jésus a vaincu le monde, nous avons l'autre.
L'attitude chrétienne devant la souffrance. Quelles sont ou quelle est cette attitude que chacun de nous doit afficher? Parce que nous avons dit dans les émissions passées que, en tant qu'enfant de Dieu, il est normal, en tant que chrétien, de passer par la souffrance. La souffrance n'est pas quelque chose d'étrange pour un chrétien, parce que déjà, qu'on soit chrétien ou pas, tu viens de le dire, nous passons tous par l'étape de la souffrance. Alors, pour le chrétien, pour celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui rencontre la souffrance, qui traverse la souffrance, quelle doit être son attitude?
Oui, l'attitude du chrétien, du disciple vis-à-vis de la souffrance, c'est une attitude de victoire, comme je disais. La souffrance du chrétien, du disciple, a déjà été subordonnée par la croix du Christ. Alors, les chrétiens doivent être convaincus que ces souffrances, comme on l'avait dit la fois passée, c'est un match en différé. Il y a quelqu'un qui les a toutes portées sous la croix de Golgotha, qui les a vaincues. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ, 100% Dieu, 100% homme, qui, à travers la Bible, nous demande de lui apporter nos fardeaux, je crois qu'on l'avait déjà dit, et que lui est le seul capable à apporter ces fardeaux-là. Donc nous devons combattre cette souffrance tout en étant de vainqueurs, de victoriers.
Le psaume 37, verset 25, dit ceci. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Ça, c'est David qui dit. Donc, il a observé sous le soleil, pendant qu'il était vivant, il a observé que ceux qui craignent Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, ne sont jamais abandonnés. En d'autres termes, il a vu le juste passer par la souffrance. Il a vu le juste passer par des moments difficiles, par des moments de sécheresse, il est passé par des lieux qu'on pouvait appeler le désert. Mais, il dit, malgré ça, Dieu ne les a jamais abandonnés. Dieu a toujours été avec eux. C'est comme pour nous dire ce que Jésus dit, je vous envoie, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile, et souvenez-vous que tous les jours, je suis avec vous. Que ça soit haut ou bas, que ça soit difficile ou facile, que ça soit dans un désert ou dans une prairie, je suis avec vous et je ne vous abandonne pas. Je suis tenté de dire que notre plus grand bien dans la souffrance, c'est d'être rassuré que le roi des rois est avec nous. Parce que lui aussi, il est passé par la souffrance. En tant qu'homme, 100% homme, il est passé par la souffrance.
Oui. Jésus-Christ est passé par la souffrance, je l'ai dit tantôt, mais il a vaincu la souffrance. J'aimerais revenir à ce que tu as dit tout de suite là. David a dit qu'il n'a pas vu les justes mendier son pain et même pas sa postérité avec lui. Alors, je souhaiterais appeler l'attention de juste à ne pas croire que jamais dans leur vie, il pourra leur arriver de mendier le pain. Je crois que David lui-même, il lui était arrivé de chercher du pain. Il est allé chercher du pain, on lui a donné le pain consacré et tout. Alors, le juste est né dans une famille de justes. Le juste, selon Dieu, ne mendie pas son pain parce que dans sa famille, l'amour est le vécu quotidien. Et ce serait bizarre qu'un juste mendie le pain. Parce que normalement, à côté des justes, il y a d'autres justes. Avant que le juste ne tende la main sur la rue, le membre de sa famille chrétienne devrait déjà comprendre qu'il a un problème et résoudre ces problèmes-là. Alors, le juste, en sus de sa famille chrétienne, a Dieu. Dieu qui connaît le problème du juste, Dieu à qui le juste s'est confus, de qui le juste dépend. Et la Bible nous dit que Dieu nous aime plus que nous ne pouvons nous aimer nous-mêmes. Le juste qui dépend réellement du Seigneur n'a pas à se lamenter de ses souffrances jusqu'à aller errer sur la route. Il va rentrer dans la maison du Seigneur, il partage son problème avec le Seigneur, mais aussi avec ses frères et sœurs. À rentrer dans la maison du Seigneur, il est le souffrance ramène le juste au pied du Seigneur. Le souffrance aide le juste à être beaucoup proche du Seigneur, à chercher à comprendre pourquoi le Seigneur permet qu'il traverse ces moments difficiles, quelle est la leçon que Dieu aimerait qu'il tire à travers ces souffrances, ces tribulations, mais aussi quelles sont les richesses qu'il a appuisé à travers ces moments difficiles pour sa vie à venir.
Ça me fait penser à une question. Tu écris dans le livre, la vie de Jésus a été marquée par la souffrance. Et tu dis que Dieu permet la souffrance afin que l'homme puisse tirer des richesses de cette souffrance. La question que je voudrais te poser, selon toi, quel bénéfice Christ a tiré des souffrances par lesquelles il est passé?
Je crois que Christ, en tant que Dieu, Dieu ne souffrait pas comme nous. Christ s'est fait homme, il s'est approprié de la nature humaine. Et moi, je crois que les souffrances du Christ l'ont aidé à expérimenter, tout en ayant la nature humaine, ce que ressent l'être humain pendant qu'il souffrait. Et quand je dis aujourd'hui, Seigneur, je souffre, il peut me comprendre comme s'il était moi-même. Parce qu'ayant porté la chair, il a souffert. Je crois qu'il s'est beaucoup enrichi. C'est vrai qu'en tant que Dieu, il connaissait tout, mais comment l'homme ressent la souffrance, je pense vraiment qu'il est mieux placé pour nous comprendre, mais aussi pour subvenir à nos besoins pendant que nous traversons des moments difficiles.
Tu écris, par les évangiles, nous le voyons lutter contre la souffrance spirituelle et psychique. en délivrant les possédés, en guérissant les malades, en pardonnant à ceux qui se sentaient coupables. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que tu sous-entends, qu'est-ce que tu veux dire par cette phrase? Par les évangiles, nous le voyons lutter, nous voyons Jésus lutter contre la souffrance spirituelle et psychique, en délivrant les possédés, en guérissant les malades, en pardonnant à ceux qui se sentaient coupables.
Bon, je voulais dire que Jésus, à travers les évangiles, à travers tous ces actes qu'il a posés, voudrait nous aider à comprendre qu'il y a un monde où il n'y a pas de souffrance. Il a lutté lui-même contre les souffrances. Il voulait nous montrer que les souffrances, normalement, sont le fruit du péché. Et que dans l'au-delà, vers où il voudrait nous amener, il n'y a pas de souffrance. Alors, il a combattu les souffrances. En guérissant le malade, il nous fait voir qu'au ciel, il n'y aura pas de maladie. Et tout ce dont Jésus a lutté contre, nous font voir que là où il nous amène, il n'y aura pas de possédés, il n'y aura pas de souffrances spirituelles, il n'y aura pas de souffrances corporelles, maladies. Et nous avons dit que son combat était culminant par sa croix et sa résurrection nous prouve qu'il a marché, qu'il a anéanti, qu'il a écrasé, qu'il a effacé toutes les racines de la souffrance.
C'est comme si tu disais que Christ, lorsqu'il est venu sur cette terre, a commencé à ouvrir une porte sur la victoire sur la souffrance. Que ses disciples ont continué dans cette victoire-là et que lui-même viendra un jour achever. Parce que ça me fait penser à Apocalypse 21, verset 4, où il est dit ceci. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les premières choses sont venues parce que l'homme a péché dans le jardin d'Éden. Jésus-Christ, en venant sur cette terre, comme dit un pasteur que j'aime beaucoup, est venu introduire le royaume de Dieu. Il a démontré le royaume de Dieu par tous ses actes, et il nous montre où il nous fait goûter l'image, où il nous fait goûter la puissance du siècle à venir, où il n'y aura plus ni larmes, ni deuil, ni souffrance, parce que, au fait, ce qu'il est venu combattre, le péché, va disparaître totalement.
Oui, tu as raison. Jésus est venu combattre le péché. Comme on a dit dans une de nos émissions, c'est du péché que sont venues toutes les sortes de souffrances que l'homme peut connaître. Alors Jésus qui est venu détruire le péché ne pouvait pas ne pas combattre les souffrances. Nous le voyons combattre les souffrances, une façon pour lui de nous montrer que la souffrance n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. La souffrance vient dans la volonté permissive de Dieu. L'homme lui-même a voulu la souffrance en péchant depuis nos ancêtres, depuis Adam et Ève. Et Jésus est venu pour nous aider à comprendre qu'il y a un monde meilleur, que si nous le suivons réellement, si nous marchons à sa suite, nous respectons le consigne qu'il nous donne, nous allons hériter avec lui le monde où il n'y a pas de souffrance. Alors Jésus lui-même, je l'ai dit, il s'est identifié à nous, à chacun de nous, à la croix. Il a pris notre souffrance et il a remporté la victoire. Et nous pouvons dire que maintenant, normalement, les souffrances n'ont plus d'autorité pour nous. Alors, c'est vrai que nous continuons à subir, à vivre des moments difficiles, mais nous ne le vivons pas comme toute autre personne, parce que nous savons que nous avons en nous celui qui a vaincu le monde, nous avons en nous celui qui a marché sur la, qui a mis fin au pouvoir de la souffrance. Nous pouvons marcher la tête haute pendant que nous traversons ces moments difficiles. La présence du Christ en nous, sa mort et sa résurrection, sa victoire en nous, ça atténue, ça va jusqu'à écraser la force en nous. Nous avons cité une de, une deux fois le souffrance que devraient endurer les compagnons de Daniel dans les temps de fait. Ils étaient là, mais comme Jésus était avec eux, ils n'ont pas vraiment ressenti, ils n'ont pas du tout ressenti cette souffrance-là. Alors, un chrétien qui croit en la puissance de Dieu sur la souffrance abandonne ses souffrances au Seigneur et laisse le Seigneur lui accorder la grâce de traverser cette vie sans beaucoup souffrir. Alors, on peut dire que le Seigneur nous enrôle, nous tous chrétiens, dans ce combat avec les armes comme la prière, le don spirituel, la confiance en Dieu et surtout notre intimité de façon plus ou moins permanente avec le Seigneur nous aide à remporter des moments difficiles qui traversent nos frères et sœurs. Je dirais que pour les chrétiens, la souffrance, c'est une clé du trésor caché. Donc, un chrétien qui souffre comprend qu'il y a un monde au-delà de celui-ci, comprend qu'il y a une vie qui est supérieure à celle-ci, comprend qu'il n'a pas à s'attarder, à trop aimer la vie actuelle. Il doit plus viser le meilleur dans sa relation avec le Seigneur, tout en sachant qu'il y a un monde meilleur qui vient où il n'y aura plus de souffrance.
Tu dis, si je puis me permettre de te répéter, tu dis dans le livre, il est enrôlé, le chrétien est enrôlé, nous sommes enrôlés dans ce combat avec les armes suivantes, la prière, l'action et les dons spirituels, tu l'as dit. Mais j'aimerais savoir, quand le chrétien est face à la souffrance, aux difficultés, aux problèmes, comment est-ce qu'il va utiliser les armes telles que la prière, l'action et les dons spirituels? Comment est-ce qu'on va les utiliser?
Merci. La prière, un chrétien qui souffre, c'est qu'il n'est pas seul. Au fait, la vie qu'il porte n'est pas sa vie, c'est la vie du Christ. Il fait rapport au Seigneur de sa vie. En fait, qui déjà sait qu'il est en train de souffrir, mais qui aime bien vivre en communion avec la chair qui porte sa vie. Les chrétiens prient, c'est-à-dire, il fait rapport de sa vie au Seigneur. Il dit, Seigneur, je souffre. Il explique au Seigneur dans le moindre des souffres. Et le Seigneur va le réconforter par la Bible, par les amis, les frères et sœurs, par de paroles de consolation, mais aussi peut lui tendre la main par rapport au problème qu'il est en train de connaître. Lutter par des actions. Je souffre personnellement, par exemple, comment lutter par des actions? Je refuse de me décourager. Je refuse que ces souffrances me font croire que Dieu m'aime pas, qu'il m'a abandonné. Non, je continue à croire, je continue à aimer le Seigneur, je continue à travailler pour le Seigneur, je continue à aimer les autres. Mais aussi, c'est quelqu'un d'autre qui souffre, c'est pas moi qui souffre. Je tends la main pour aider cette personne-là. J'aide cette personne à comprendre que, à travers moi, Jésus vient lui apporter secours.
Écoute ça, je viens de penser à cette belle histoire qui se trouve dans les Actes des Apôtres. Paul et Silas, après avoir chassé un démon, sont battus de verges et incarcérés. C'est dans Actes 16, à partir du verset 16, mais j'aimerais lire à partir du verset 22. Actes 16, à partir du verset 22. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison et en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les sceptres aux pieds. Dépossédés. Ils se retrouvent insultés, tabassés, on leur a arraché leurs vêtements. C'est pas étonnant que Paul disait qu'il était exposé à la nudité. Ils sont battus de verges. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Perpétue. Tu imagines, on t'a tabassé. On t'a mis toute nue. On t'a mis des sceptres aux pieds. Et tu n'es pas seulement en prison, mais tu es dans la prison intérieure. Donc, la prison la plus difficile, là où il n'y a que des récalcitrants. Et qu'est-ce que ces gars-là font? Au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, au lieu de dire, mais Seigneur, tu nous as abandonnés, mais c'est quoi cette vie finalement? Donc, nous, depuis qu'on t'a donné notre vie, on passe notre temps à souffrir. Mais finalement, non, il est dit ceci, vers le milieu de la nuit. Et nous savons que la nuit, l'image de la nuit, dans la Bible, c'est l'image où les ténèbres sont au, je vais dire, au paroxysme. Donc, ils sont en train de dominer. Qu'est-ce que Paul et Silas font? Ils sont en train de prier et ils sont en train de chanter. Ils bénissent le Seigneur. Ils ne comprennent pas, mais ils disent certainement, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous avons suivi tes instructions. Nous avons suivi ta marche. Nous avons suivi ton commandement. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en prison. Acte 16, verset 25. Et verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus à cause de leur dévotion à Dieu. Dieu va faire un miracle dans un lieu où, en principe, on ne voulait pas de Dieu. Et un homme, je ne sais pas si je peux dire le chef de cette prison-là, va se convertir, va donner sa vie à Jésus-Christ. Sa famille aussi va venir à Jésus-Christ. Mais ça part du départ. Disons que le départ est que deux hommes, malgré la souffrance, n'ont pas refusé de plaire à Dieu. Malgré les difficultés, n'ont pas refusé de bénir Dieu parce que Dieu les avait trouvés, ou si on peut dire que les hommes les avaient trouvés dignes de participer aux souffrances de Christ. Vas-y, je t'en prie.
Oui, merci beaucoup. Tu sais que j'aime bien David quand il dit, je crois que c'est le psaume 92, verset 2, 3, « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom, d'annoncer le matin la bonté du Seigneur et sa fidélité pendant les nuits. »
Pendant les nuits.
Généralement, nous aimons chanter, louer, exalter le Seigneur quand tout va bien. Oh, le Seigneur a opéré des miracles, il m'a donné l'argent, il m'a fait accorder telle ou telle autre grâce et tout. Mais je crois que nous devons aimer le Seigneur quand bien même que nous traversons des moments difficiles. Notre amour vis-à-vis du Seigneur ne doit pas être colorié par des événements que nous traversons. Et je ne veux pas là encourager les chrétiens à louer le Seigneur quand tu souffres pour que Dieu le sauve de ces souffrances-là, comme il l'a fait avec Paul et Silas. Mais j'aimerais appeler les chrétiens à louer le Seigneur, quand bien même qu'ils seraient en train de traverser des moments difficiles. Notre amour pour le Seigneur devrait dépasser notre amour. J'aime le Seigneur parce qu'il m'a aimé le premier. J'aime le Seigneur parce qu'il m'aime plus que je ne peux m'aimer moi-même. J'aime le Seigneur parce que alors que j'étais perdue, alors que je serais candidate de l'enfer, il a porté mon péché, il a porté mes souffrances, il est mort pour moi. J'aime le Seigneur parce qu'il est digne de mes louanges. J'aime le Seigneur parce que je sais qu'il est tout puissant, il est capable de tout. Il peut me sauver de mes souffrances, mais même s'il ne le ferait pas, je vais aimer le Seigneur. Et je crois qu'il est beau de vanter la fidélité du Seigneur pendant le nu. Et c'est vrai que Dieu siège au milieu de louanges, nous l'avons vu là, aux actes, comme tu viens de les lire, au milieu de louanges de ses apôtres, le Seigneur exprime sa joie, exprime sa communion avec ses disciples en les détachant de ces liens de la prison. Mais les chrétiens ne doivent pas louer le Seigneur pour un gain. Les chrétiens doivent louer le Seigneur parce qu'il en est digne.
Tout à fait. Écoute ça. Paul toujours. Ouais. Romains 8, verset 18. J'estime, c'est Paul, j'évalue que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul dit, écoutez, tu sais, quand Paul écrit le livre des Romains, l'épître des Romains, Paul a atteint un certain nombre d'années dans le ministère. C'est comme un testament où Paul écrit avant de partir. Donc, il a passé par plusieurs étapes et il est en train de nous faire des dernières recommandations. Et il dit, je vous assure, j'estime, j'ai évalué que les souffrances du temps présent, ce que nous sommes en train de traverser comme problème, oh, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de travail, on me rejette par ma famille, on me rejette par mes amis. Il dit, quand vous comparez toutes ces souffrances-là, quand vous prenez toutes ces souffrances, vous les assemblez, vous les additionnez, et vous les comparez à ce que sera l'avenir de demain avec Christ. Il dit, il n'y a pas match. Il n'y a pas ressemblance. Il dit, c'est rien du tout. Parce que, un peu comme Jésus nous dit dans l'Apocalypse 21, verset 4, il va essuyer les larmes. Perpétue, est-ce que tu imagines que, supposons que toi et moi, nous ayons été ennemis le 8/10 de notre vie, et que les deux dernières dizaines de notre vie, nous nous sommes réconciliés, et nous mourons, nous allons au ciel. Dans 10 milliards d'années, je te regarde en face, tu me regardes en face, tu ne te souviendras même plus du mal que je te faisais quand on était sur terre. Parce que, en fait, Christ va, avec les années, si je puis me permettre, il va faire oublier cela. Donc, on va même à un moment se regarder, mais en fait, toi et moi, pourquoi on s'est détestés? C'était quoi le problème? Oh non, on n'était pas d'accord sur quelques versets bibliques, on n'était pas d'accord sur quelques maisons, on n'était pas d'accord sur quelques bonbons. Ah, on commence à rigoler. Parce que cette gloire va tellement être puissante, va tellement être grande. Il n'y a pas de mots pour exprimer ces choses que Paul dit. Cette gloire comparée, vous qui êtes en train de nous écouter en ce moment. Nous ne sommes pas en train de vous dire non, ne négligez pas la souffrance. Non, mais que cela ne vous empêche pas de continuer de servir Christ, de continuer de marcher avec Christ. C'est normal de pleurer, mais ne lâchez pas la main de Christ. C'est normal de souffrir. Ça fait mal. On s'assied un moment, on commence à réfléchir, on se dit, mais est-ce que j'ai pris le bon chemin? C'est normal en tant qu'humain. Mais Paul dit, regardez au-delà de cela. Regardez la gloire qui nous attend. J'estime que les souffrances du temps présent ne pourraient être comparées à la gloire à venir. Mon frère, ma sœur, au moment où nous sommes en train de finir l'émission d'aujourd'hui, je voudrais vous inviter, vous qui, à cause des souffrances, vous vous êtes rétrogradé, vous avez fait marche en arrière. Christ est venu frapper à votre porte aujourd'hui pour vous dire, les souffrances d'aujourd'hui ne sont pas comparables à ce que je vais faire pour vous demain. Si c'est votre désir de revenir à Christ, c'est très simple. Baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens à toi. Je te demande pardon. Pardon parce que à cause des souffrances, j'ai regardé en arrière. Je te demande pardon parce que à cause des souffrances, j'ai mis Christ de côté. Je te demande pardon parce que à cause des souffrances, ma vie chrétienne est devenue froide. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ton message et tu as dit, les souffrances présentes ne sont pas comparables à la gloire à venir. Et je reprends ma marche chrétienne avec Christ. Avec ta grâce et ton soutien, je tiendrai. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou, le nom de cette... Toujours sur le disciple et la souffrance, toujours avec la sœur Marie Perpétue Mukulu. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.
Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.